France Musique. Europe 1720, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble ce voyage à travers l'Europe des années 1720. La semaine dernière, nous avons constaté comment la France et l'Italie se partageaient la République de la musique, pour reprendre l'expression de François Couperin. Je vous propose aujourd'hui de nous attarder essentiellement en France, où la disparition de Louis XIV en 1715 s'est accompagnée d'une nette évolution des préférences esthétiques. Sous la régence de Philippe d'Orléans, puis au début du règne de Louis XV, se développe en effet une nouvelle sensibilité, davantage portée vers l'intime que la majesté, de nouvelles sociabilités avec l'apparition des salons. L'aristocratie prend le pas sur la monarchie et devient l'arbitre du bon goût. Elle cherche davantage les plaisirs de l'alcôve que le pouvoir des armes. Les lignes droites des colonnes, la symétrie, cèdent la place aux courbes, aux spirales, aux volutes, à l'irrégularité. La pierre devient mousse, le baroque se fait rococo. Bienvenue dans l'univers de la galanterie.
Thank you. Thank you.
Heather Newhouse dans le rôle de Céphiz, les nouveaux caractères dirigés par Sébastien Dérin. C'était un extrait de l'Europe galante, un extrait de la première entrée, la France. Alors je dois vous avouer que je suis un peu sorti du cadre des années 1720, puisque cette Europe galante a été créée à Paris en 1697, mais elle amorce un mouvement qui va s'étendre sur tout le XVIIIe siècle. Les sujets de l'opéra, mais aussi du théâtre, pensons à Marivaux ou à Destouches, oublient un temps les dieux de l'Olympe et leur combat pour s'abandonner au charme de l'Arcadie des bergers et bergères. Nous sommes loin des tragédies en musique de Lully et de Quinault. Le théâtre représente un bocage et dans le fond, un hameau, indique ainsi le livret de la première entrée, la France de l'Europe galante. Il faut savoir que le nom d'André Campra, qui était maître de chapelle à Notre-Dame de Paris, n'apparaît pas sur le livret. À une époque où les comédiens étaient excommuniés, il aurait été inconvenant de passer de l'église à la scène, une scène où l'on célèbre les plaisirs de l'amour à travers les pays, comme dans les nations de Couperin. On visite en effet dans cette Europe galante la France, l'Italie, l'Espagne et puis un peu plus tard la Turquie. Cette Europe galante marque le début de ce qu'on appelle l'opéra ballet. Différentes entrées autour d'un même thème, mais des entrées indépendantes, comme un peu plus tard, les Indes galantes de Rameau. À propos de Rameau, son librettiste Louis de Cahuzac écrira, à propos de cette Europe galante, « Le spectacle trouvé par Lamotte, Lamotte était le librettiste, le spectacle trouvé par Lamotte est un composé de plusieurs actes différents qui représentent chacun une action mêlée de divertissement, de chant et de danse. » Ce sont de jolis watteaux, des miniatures piquantes qui exigent toute la précision du dessin, les grâces du pinceau et tout le brillant du coloris. Extrait du troisième livre de pièces de clavecin de François Couperin, extrait du 14e ordre, c'était le Rossignol en amour et la linotte effarouchée sous les doigts d'Olivier Beaumont au clavecin. De jolis watteaux, des miniatures piquantes qui exigent toute la précision du dessin, les grâces du pinceau et tout le brillant du coloris. Difficile de ne pas penser à François Couperin et à ses contemporains Marchand, Clérambault, Dandrieux qui délaissent peu à peu le nom des danses allemandes, courantes, sarabandes, pour les noms de ceux et celles dont il dessine le portrait en musique. Watteau, mort en 1721, ouvre d'ailleurs de nouvelles perspectives et se plaît à égarer ses pinceaux dans une nature mystérieuse et délicate, comme dans le pèlerinage à l'île de Cythère, tout en refusant les excès baroques, préférant une mélancolie secrète. On pense aussi à des peintres comme Lyotard, Oudry, Van Loo ou Lancret, qui tous préfèrent la grâce et le non-dit à la puissance, à la majesté. La peinture d'histoire disparaît derrière une mythologie galante où la femme occupe une place nouvelle. Cette réduction d'échelle, aussi constatée dans l'architecture, peut s'observer dans le domaine vocal profane, dans l'apparition de la cantate française au début du XVIIIe siècle, notamment lors des nuits de Sceaux organisées par la duchesse du Maine, où se distinguent des compositeurs comme Mouret, Colin de Blamont ou Bernier. La cantate, en fait, c'est un opéra en miniature. Les enjeux sont un peu moins importants et on imagine que les langueurs amoureuses y sont moins douloureuses. Là, tu résignes sa cruelle peine, sans cesse il fatiguait les échos d'un retour. Thank you.
Votre peine la plus cruelle ne saurait égaler les maux que je ressens, ne saurait d'un destin déplorable, savez si vivement exprimer les rigueurs sensibles à la nuit qui m'accable. Prêtez votre peine la plus cruelle ne saurait égaler les maux que je ressens, ne saurait.
Son tourment, il se plaignait sans cesse. Un désespoir, une tristesse. L'amour régnait encore plus ardent dans son cœur. Que deviens-je, dit-il? Quelle est mon espérance? secours de l'absence, une fatale image entretient mon ardeur. Ah, puisque rien ne peut finir ma peine, le jour pour moi n'a plus d'appât. Dis-moi, mourons aux yeux de l'ingrate Climène. Affreux depuis, suivez mes pas. Allons, peut-être l'Irimène. Par de nouveau mépris à travaudre pas. Affreux depuis, suivez mes pas. Allons, allons, peut-être l'Irimène. Par de nouveau mépris à travaudre pas.
Grâce
Se troublo d'une pesse du terre et de sa volage bergère le triste souvenir est bientôt effacé.
Le ténor Renu von Mechelen, accompagné par l'ensemble A Nocte Temporis, interprété de Nicolas Clérambeau, la cantate L'amour guéri par l'amour, une œuvre extraite du quatrième livre de cantate de 1720. Clérambeau laissera 5 livres de cantate et comme Elisabeth Jacquet de la Guerre, Campras, Morin, Rameau, il participera au développement de cette cantate française qui adopte la forme récitatif air, comme dans l'opéra seria et comme dans la cantate italienne, son modèle. Et ce sont des œuvres en général conçues pour une ou deux voix, accompagnées par un petit effectif instrumental. C'est essentiellement, bien sûr, de la musique de salon. Vous écoutez France Musique et nous sommes toujours dans cette série Europe 1720, aujourd'hui consacrée à la question baroque ou rococo. Poursuivons avec une œuvre aujourd'hui bien oubliée, mais qui fut un grand succès en son temps. Compositeur également oublié aujourd'hui, François Colin de Blamont, avec un extrait de ses fêtes grecques et romaines. L'ensemble Les Ombres, conduit par Margot Blanchard et Sylvain Sartre, interprétaient des extraits des fêtes grecques et romaines de François Collin de Blamont, une œuvre de 1723, un ballet héroïque à trois entrées, les Jeux Olympiques, les Bacchanales et les Saturnales, précédé d'un prologue. L'avertissement de la publication annonce que la muse lyrique n'avait jusqu'à présent tiré ses poèmes que de la chronique des Amadis, de l'Arioste, des Métamorphoses d'Ovide, du Tasse et d'autres semblables auteurs. L'Italie, plus hasardeuse, a placé dans ses opéras les événements de l'histoire. Les Scarlatti, les Bononcini ont fait chanter des héros que Corneille et Racine auraient fait parler. Enhardi par ces exemples, on s'est dispensé de glaner dans les chants trop souvent moissonnés de la mythologie et du roman. On a rassemblé dans ce ballet les fêtes de l'Antiquité les plus connues qui ont semblé les plus favorables au théâtre et à la musique. Nous avons jusqu'à présent évoqué l'évolution de la musique en France. Rassurez-vous, les autres nations seront visitées prochainement. Faisons un saut dans les pays germaniques. On sait que l'architecture y sera furieusement rococo, meringuée, même si on pense aux travaux de Fischer von Erlach, l'église Saint-Charles ou la vertigineuse bibliothèque de la Hofburg à Vienne, ou les œuvres de Hildebrand, le palais Mirabel à Salzbourg, ou le Belvédère à Vienne. Qu'en est-il en musique? On ne saurait clairement qualifier celle de Bach de rococo, même s'il annonce quelques galanteries dans l'édition de la première de ses 6 partitas pour clavier en 1726. Un compositeur semble en revanche très vite sensible à cette inflexion du style, un compositeur qui sera toujours à l'écoute de son temps, c'était Lehmann.
Sento tutto in gloria.
Vigna vittorina re.
Sulla banquignuto serra.
Onore mio la sancerra.
Tanti inchini non vorrei.
Far così d'io con lei.
Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni.
Io
prendo in conclusione.
Oh,
felice. Io
prendo. Oh, felice. Io prendo in conclusione.
Oh, felice, Pimpino.
Andiamo,
vieni, vieni, andiamo.
Madre la
piedi andiamo.
Madonna, avanti.
Aspetta, aspetta, vieni, vieni.
Non mi permetti.
Lascia i complimenti, i complimenti.
Lascia
i complimenti. Aspetta, vieni, vieni.
Non mi permetti.
Lascia i complimenti, i complimenti. Lascia i complimenti.
Sei contenti?
In camino tu hai ragione.
Illustris.
Tu hai ragione.
Illustris.
In camino tu hai ragione.
Michel Schopper dans le rôle de Pimpinone et Mechthilde Bach dans celui de Vespetta. L'ensemble La Stagione est dirigé par Michael Schneider. C'était un extrait de Pimpinone de Georg-Philippe Telemann. C'est un intermezzo en trois tableaux, en fait un divertissement comique destiné à occuper en fait la scène pendant les entr'actes d'un grand opéra seria. Ce Pimpinone de Telemann a été représenté la première fois à l'opéra de Hambourg en septembre 1725. Entre les actes de Tamerlano de Händel. Les récitatifs sont en allemand et les airs en italien. Comme vous avez pu l'entendre, l'argument est assez basique. Une jeune femme roturière déploie des ruses pour se faire épouser par un barbon riche et naïf. Nous avons évoqué déjà le nom de Jean-Philippe Rameau, mais pas encore écouté sa musique. L'heure en est venue. de Jean-Philippe Rameau, extrait de son livre de pièces de clavecin de 1724. C'était une musette en rondeau, un tambourin, et les tendres plaintes sous les doigts de Christophe Rousset. Au clavecin, en ces années 1720, Rameau, le Dijonnais, était à Paris et il réutilisera cette musette en rondeau et ce tambourin dans les Fêtes d'Hébé, un autre opéra-ballet, lui, de 1739. En ces années 1720, il était tout juste arrivé à Paris et il participait au début de l'opéra comique sous forme d'œuvre pour le théâtre de foire, ceux de la foire de Saint-Laurent et de Saint-Germain, avec l'un autre Dijonnais qui était Alexis Piron. Ainsi s'achève donc cette exploration de la musique des années 1720 en Europe. La semaine prochaine, ce sera la revanche de l'instrument. Il y avait aujourd'hui à la réalisation David Travailleur, à la technique Stéphane Poitevin, attaché de production Annick Aumier. Vous écoutez France Musique. Nous retrouvons tout de suite Marina Chiche et Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.